Donc on peut chercher dans Ésaïe chapitre 12, vous l'avez peut-être déjà trouvé. On n'a pas besoin de connaître tout le contexte pour le comprendre, même si je vais faire une petite allusion à cela. Donc je vais lire ces quelques versets. Tu diras, en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors, dans ce texte, ça tombe bien parce que ça me permet de parler à la fois de la forme de la louange et du fond de la louange. Donc vous allez voir pourquoi, je vais m'expliquer. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on voit au verset 1 et 2 ? Tu diras, en ce jour-là, je te loue au Éternel. En disant en ce jour, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on parle du jour ou en ce jour, c'est le jour où Dieu intervient pour faire quelque chose. Okay. Donc, tu diras en ce jour, je te loue au Éternel. Versets 3 et 6. Et vous direz en ce jour-là, louez, célébrez l'Éternel. Alors, je tire en fait une conclusion de cela. Que peut-être qui ne fait pas problème pour vous, mais je le dis quand même. Et on va voir qu'il y a des retombées importantes pour la compréhension de la louange après. D'abord, la louange peut être individuelle. Tu diras en ce jour-là, et vous direz en ce jour-là. Donc ça veut dire que quand on est ensemble en tant qu'église, on peut louer le Seigneur ensemble. Mais quand on est tout seul, sous sa douche, ou dans le métro, en se promenant dans la rue, on peut aussi louer le Seigneur. Donc, je te loue et nous le louons. Donc, singulier et pluriel. Et la deuxième chose, c'est que au verset 1 et 2, c'est « Je te loue, ô Éternel », et on s'adresse à Dieu. « Je te loue, Éternel », alors que au verset, à partir du verset 4, par exemple, on voit « Louer l'Éternel, invoquer son nom ». Il a fait des choses magnifiques au verset 5, etc. Donc, ça veut dire que parfois on s'adresse à Dieu directement pour dire « Je te loue » et parfois on dit « Dieu est magnifique » et c'est aussi on est en train de le louer. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités parce qu'on a le singulier et le pluriel. On tutoie Dieu pour le louer, mais on peut parler de lui à la troisième personne. Et une fois avec un musicien, pasteur stagiaire quand j'étais au Blanc-Mesnil, on a fait une étude dans les psaumes, on a trouvé exactement ça. Que la moitié des psaumes c'était « je fais ceci », l'autre moitié c'est « nous te louons » ou « je te loue, nous te louons » et parfois on s'adressait à Dieu « je te loue » et parfois c'était « le Seigneur est mon berger » donc la troisième personne. Donc, on a beaucoup de possibilités dans le louange. Je dis parce que je me souviens une fois, je vais parler avec un jeune qui dit, la vraie louange, c'est lorsqu'on s'adresse à Dieu, on dit, je te loue. Mais c'est pas vrai. On peut aussi louer l'Éternel à la troisième personne. Et en fait, c'est là où ça rejoint en fait ce qu'on peut appeler, donc voilà, la louange est individuelle et collective, on s'adresse à Dieu et on parle de lui. Parce que la louange, et en fait, c'est une définition, je pense que je vais aller un petit peu plus loin, du CNRTL. Qui sait ce que c'est que le CNRTL, sauf éventuellement quelqu'un qui était au culte le matin quand j'en ai parlé. Non, c'est bon. C'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales. C'est-à-dire, c'est la fac des, les facs des lettres à Nancy. Nous avons passé 20 ans. Voilà, donc, c'est, si vous voulez connaître vraiment le sens de mots en français, il faut faire CNRTL. C'est vraiment la référence. Donc voilà, c'est manifester ou exprimer son adoration, son estime pour quelqu'un ou pour quelque chose, en faire l'éloge, en reconnaître ou en célébrer le mérite, lui rendre gloire. Et dans ce sens-là, on peut louer quelqu'un. Donc, voilà. La CNRTL donne un exemple, Thierry de Flaubert. J'ai dîné ce soir avec des savants qui m'ont fortement loué un nouvel ouvrage de Monsieur Larocque. Donc, on peut louer quelqu'un ou louer quelque chose comme on peut louer Dieu. Parce qu'on dit les mérites de la personne. Moi, je peux dire, Marie fait très bien la cuisine. Je suis en train de la louer. Et c'est pas, j'ai le droit de le faire. De la même façon, on peut dire, Jésus est quelqu'un d'extraordinaire qui m'a sauvé. Et c'est la louange. Par contre, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on adore que Dieu. On peut louer quelqu'un pour ce qu'il a fait, mais on adore que Dieu. Et je me souviens, j'étais jeune chrétien, j'étais déjà à Nancy à l'époque, et j'ai parlé de quelque chose qui fait la gloire de la ville de Nancy, la tarte aux mirabelles. Et j'ai dit, j'adore les mirabelles. Et il y a une vieille chrétienne qui m'a dit, on adore que Dieu. Donc, on adore que Dieu, mais on peut louer quelqu'un et on peut louer le Seigneur. Donc, c'est important de le dire. Donc, la louange, c'est, on exprime son admiration, son estime pour quelqu'un, pour quelque chose. Et nous, quand on est ensemble, on exprime notre admiration, notre estime pour Dieu et pour son Fils. Donc, voilà une petite introduction parce que cela permet, donc, déjà à partir de ce texte, de voir un peu la forme de la louange. Juste très rapidement, pour parler du contexte du chapitre 12, au chapitre 11, en fait, il y a toute une prophétie parce que Ésaïe, en fait, a dû faire des prophéties très dures en disant, si vous, c'était le roi Akaz, si vous ne changez pas d'avis, si vous ne faites pas confiance à Dieu, le peuple sera emmené en exil, loin d'ici. Et en fait, le roi ne s'est pas repenti, mais c'est quelques années après qu'il y a eu l'exil. Mais au chapitre 11, il a annoncé le retour de cet exil. Déjà, avant que l'exil n'ait lieu, il a annoncé qu'il y aurait un retour. Et même que les nations se tourneront vers Dieu. Pas uniquement le peuple d'Israël. Il y avait des perspectives eschatologiques, excuse-moi, il y a une faute de frappe, à la fin des temps. Donc on parle du fait que le lion habitera avec l'agneau, que le nourrisson jouera avec la vipère, etc. Et le verset 10 dit, et ce sera par le descendant d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. Donc le Messie qui devait venir, Messie qui veut dire celui qui a reçu une onction. Donc c'est le même mot que Christ. Messie en hébreu égale Christ en grec, si on veut. Donc celui qui a reçu. Donc c'est le descendant d'Isaïe, donc le descendant du roi David qui sera le roi des rois, comme on vient de le chanter. Donc voilà, c'était le contexte. Donc, ce chant, on dirait en ce jour-là, ça veut dire le jour où le peuple reviendra de l'exil, on peut dire, il y a toutes ces raisons qui sont données, la colère de Dieu s'est détournée, il m'a consolé, il m'a délivré, je me confie en lui, et grâce à lui, je ne crains rien, il m'a sauvé, il est ma force. Donc, premier sens, ils sont revenus dans leur pays après la déportation à Babylone. Mais quand on voit cela, nous, dans la Nouvelle Alliance, on peut dire exactement la même chose. Sa colère s'est détournée de moi, parce que c'est Jésus qui l'a pris. Il m'a consolé, il m'a délivré. Je me confie en lui et grâce à lui, je ne crains rien. Il m'a sauvé, il est ma force. Donc voilà, il y a des raisons de louer Dieu qui sont parées dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Et là, je vais juste ajouter une autre petite chose par rapport à la forme. Parce que Voyez le verset qui dit, c'est le verset 2, l'Éternel est ma force et la sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. En fait, Esaïe est en train de citer une citation qui vient du Cantique de Moïse, si vous voulez le contexte, enfin la citation c'est Exode 15, 2. Donc, quand ils avaient traversé la mer Rouge, quand ils sont sortis de l'esclavage en Égypte, Moïse a chanté un chant et il a dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Donc, on peut dire aussi que lorsque nous louons le Seigneur, on peut aussi utiliser les mots des Écritures, les mots des cantiques déjà écrits. On n'est pas obligé chaque fois d'écrire de nouveaux cantiques, même si, si quelqu'un veut écrire un beau cantique qu'on chante, Antoine va composer une jolie mélodie et puis on le chantera, donc il n'y a pas de problème. Donc on peut chanter un cantique nouveau, mais on peut aussi chanter des psaumes, des chants. Là, ce soir, c'était plutôt des chants un peu plus moderne, sauf quand je contemple cette croix qui vient, je pense, du XVIIIe siècle, si je me trompe pas. Donc, et ces paroles nous parlent aussi. Donc, pour la forme, on peut aussi nous inspirer de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Maintenant, la manière de louer Dieu. On a vu les raisons, maintenant la manière. Il y a plusieurs choses. Une chose qui est claire au verset 4, c'est on dit célébrer l'Éternel, louer l'Éternel, invoquer son nom. Donc, invoquer-le, ça veut dire le prier en utilisant son nom. J'ai mis d'abord Genèse 4, 26, parce que au début de la Bible, donc on est chapitre 1, la création, et chapitre 2, chapitre 3, le péché, chapitre 4, le début de la civilisation. Et à ce moment-là, il y a un petit verset à la fin qui dit que le petit-fils d'Adam a commencé à invoquer l'Éternel. Donc il a fait appel à lui, c'est le sens d'invoquer. Donc une première chose, quand on dit louer l'Éternel en invoquant son nom, c'est-à-dire que on le loue selon son nom, et le nom de quelqu'un représente ce qu'il est, donc on loue Dieu tel qu'il est, et non pas tel qu'on l'imagine. Ce qui fait que toute la lecture de la Bible, du début jusqu'à la fin, nous aide à comprendre qui est ce Dieu qu'on va louer. Le vrai Dieu qui s'est révélé. Donc, première chose. Deuxième chose, qui peut être étonnant, c'était aussi, dans ma traduction, c'était publier l'Éternel, pardon, publier ses œuvres parmi les peuples. Si j'ai mis annoncer son nom, je crois que c'était une autre traduction. Il y a même proclamé qu'il est sublime, j'ai vu dans le sommaire. Ça veut dire que quand on est en train d'évangéliser, donc ça veut dire qu'on parle du Seigneur auprès de non-chrétiens, que ce soit près de chez nous, au travail, dans la famille, ou que ce soit aux extrémités de la terre, sans chanter, sans prier, on est en train de louer Dieu. Pourquoi? On revient en arrière vers cette définition. On est en train de manifester, exprimer notre admiration, notre estime. On est en train de faire l'éloge du Seigneur auprès des autres. Donc on est en train de le louer quand on évangélise, en fait. Parce qu'on est en train de faire l'éloge de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on peut aussi dire que on n'est pas forcément, bon, on n'est pas obligé de dire la louange, c'est chanter. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, louer Dieu, c'est un moment, une soirée de louange, une soirée où on chante. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être le cas. Verset 5. Célébrer l'Éternel, j'ai trouvé aussi que c'est marqué chanter dans certaines versions de la Bible. Parce que bien sûr, le Seigneur nous a donné le chant. Et ça fait partie de la louange quand on le chante. Mais quand entre nous, on en parle, quand on fait une soirée méditative, parce qu'on ne chante pas tous les dimanches soirs, on est aussi en train de le louer. Parce qu'on parle de lui, on est en train de faire son éloge. Donc, je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas, quand on fait cela dans notre culte du soir, ce n'est pas une sorte de, on va dire, louange de deuxième degré, moins important que le chant. C'est une autre façon de faire l'éloge du Seigneur. Mais on peut aussi dire, chanter l'Éternel, forcément, il a fait des choses magnifiques. Et la dernière chose, c'est pousser des cris de joie et d'allégresse, et exprimer notre allégresse. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire chez nous, pousser des cris de joie? Et j'ai dit, voilà, on est en train de, je me souviens, au moins une ou deux fois, on l'a fait dans notre culte du soir, on lit un texte biblique et quelqu'un dit, waouh! On a poussé un cri de joie. En fait, quand on dit waouh, c'est une façon peut-être 2017 de pousser des cris de joie. Et je pense que ça, c'est vraiment. Ouais, il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais ça, c'est notre façon chez nous, aujourd'hui, de pousser un cri de joie. Entre autres, peut-être. Vous avez d'autres façons de le faire, mais c'est une façon de le faire. Donc, voilà quelques réflexions. Je reviens donc sur la forme. Prière individuelle et collective. On s'adresse à Dieu, on parle de lui à la troisième personne. On peut utiliser des textes déjà écrits dans la parole ou dans nos cantiques. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, on pense à toutes les raisons de le louer. Et ça, c'est important. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mais il y a quelques années, je me suis dit, je me donne le défi, tous les matins, de penser à une raison de dire merci à Dieu pour quelque chose de spirituel et pour quelque chose de matériel. Et j'ai essayé pendant des mois, chaque matin, de trouver une nouvelle chose, deux nouvelles choses, sans me répéter. C'est un bon exercice. Comme Gabriel a dit tout à l'heure, comptez tous les bienfaits de Dieu. C'est important, comptez les bienfaits de Dieu. Et donc, ça veut dire que la louange, ce n'est pas que le culte de louange. Romains 12, verset 1, dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce serait de votre part un culte raisonnable. Je mentionne entre parenthèses que le mot culte ne se trouve que deux fois dans le Nouveau Testament dans le sens qu'on l'utilise. Donc, adorer Dieu. Le culte est souvent, même dans le Nouveau Testament, utilisé pour le culte de l'Ancien Testament. Bon, mais dans notre sens, il n'y a que deux fois. C'en est un. Donc le culte doit être deux choses. C'est difficile en fait de traduire parce que le mot en grec, ça vient de l'adjectif logikos. Ça veut dire que c'est à la fois un culte raisonnable et un culte spirituel. Mais en France, en français, on n'a pas un mot qui dit les deux choses en même temps. Mais en grec, c'est possible. C'est à la fois logique parce que, voilà, à cause des compassions de Dieu, on veut le louer. Mais en même temps, c'est spirituel. C'est les deux choses en même temps. Donc, toute notre vie doit être un culte raisonnable, logique et spirituel. Donc voilà quelques réflexions sur la louange pour nous aider à ne pas tomber dans une façon un petit peu trop étriquée de comprendre la louange, parce que la louange c'est très varié et c'est tout au long de la semaine. C'est notre vie qui devient un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu.